Le bouddhisme. Le bouddhisme est un ensemble de croyances religieuses et philosophiques fondées sur l'enseignement de Bouddha. Il se développe dès le VIe siècle avant Jésus-Christ et disparaît en Inde au XVIIIe siècle. Grâce à la conversion et au zèle de l'empereur Asoka au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il se répand dans le sous-continent indien et à Ceylan, puis gagne le sud-est asiatique et l'insule Inde par la mer, puis l'Asie centrale, la Chine, la Corée, le Japon et le Tibet. Dirigé à l'origine contre la prédominance brahmanique, le bouddhisme, mouvement réformateur, va se traduire par une hérésie dans l'édifice religieux du brahmanisme. Des deux thèmes fondamentaux de la pensée brahmanique, l'Atman Brahman, l'identification de l'âme universelle et de l'âme individuelle, et le samsara, la transmigration des âmes, le bouddhisme ne conserve que la seconde.
N'oubliez pas les mots de l'hindouisme et du bouddhisme. Ashram, c'est le lieu de prière et d'ermitage placé sous la direction d'un gourou. Ahimsa signifie non-violence, une vertu essentielle du jaïnisme et du bouddhisme qui se retrouve dans l'hindouisme. C'est le refus d'attenter à toute forme de vie. Apsara, c'est une nymphe souvent représentée dans l'art indien. Brahman, l'homme prière. C'est celui qui manie la prière. Désigne également le pouvoir religieux. Brahmana, composé entre le Xe et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ environ, ces textes expliquent les rites du sacrifice védique. Dharma, ou loi, c'est la loi qui régit chaque être et chaque chose. Guru, lourd, c'est l'homme de poids, le maître. Jnana, c'est la connaissance. Karma, c'est la somme des actes accumulés pendant les vies antérieures et dont il faut se séparer pour se délivrer. Purana, ce sont les textes épiques relatant les anciennes légendes. Prana, c'est l'énergie, le souffle vital. Sadhu, c'est le moine hindou, l'ascète d'une catégorie inférieure. Stupa, monument bouddhique. Tantra, tram, en sanskrit. Tantrisme, forme dérivée du bouddhisme, du grand véhicule et de l'hindouisme, qui porte surtout sur le rituel et la magie.
Le Bouddha. Personnage emblématique de la religion bouddhiste, le Bouddha a-t-il réellement vécu? La question s'est posée. Le terme même de Bouddha, qui signifie l'éveillé, est un titre porté par le Bouddha historique, le prince Siddhartha Gautama, qui vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ. Né près de la frontière actuelle entre l'Inde et le Népal dans le clan des Kshatriyas, ce sont des guerriers, il reçoit à sa naissance le nom de Siddhartha, c'est-à-dire celui qui a atteint son but, en sanskrit. Pour avoir rencontré au cours de 4 sorties un vieillard, un ascète, un malade et un mort, Bouddha sait que le bonheur dont il jouit est illusoire et prend conscience de la souffrance humaine. Durant 7 ans, après avoir renoncé à son mode de vie et quitté son palais, il suit l'enseignement des brahmanes. En suivant l'exemple des autres ascètes, il impose à son corps jeûnes et macérations pour atteindre l'illumination. En dépit de tous ses efforts, il ne parvient pas au salut et se retire pour méditer.
Le saviez-vous? Bonnet rouge et bonnet jaune. Le bouddhisme lamaïque, forme de monachisme tibétain et mongol, coexiste avec le bouddhisme, et ce depuis l'introduction du tantrisme bouddhique au Tibet, par Padmasambhava au VIIIe siècle, qui triomphe de la religion autochtone. Les sectes les plus anciennes, celles des bonnets rouges, pratiquent le bouddhisme dit du grand véhicule. Elles se groupent en monastères ou en lamaséris autour d'un moine célibataire qui en constitue le centre. Chaque lamaserie est dirigée par un ou plusieurs lamas réincarnés. Les bonnets jaunes, la secte la plus nombreuse, regroupent 3 monastères à Lhasa et suivent la réforme imposée par Dzongkhapa, qui ordonne le célibat et réduit l'aspect tantrique de la doctrine. Le chef spirituel en est le Dalai Lama, considéré comme la réincarnation du Bodhisattva Avalokitesvara, le seigneur qui observe depuis le haut.
La doctrine bouddhiste. Le Bouddha a la révélation de la connaissance libératrice près du village de Bodh Gaya. Lors de cette illumination, il découvre 4 vérités saintes. Les 4 nobles vérités qui sont les suivantes. Toute existence est par nature difficile, voire décevante, même celle des dieux. La soif d'exister qui conduit à renaître est à l'origine de ce malheur. La délivrance du cycle des renaissances, donc des malheurs et des souffrances, est inhérente à l'existence. La délivrance peut être obtenue en suivant la sainte voie, ou marga, aux 8 membres, c'est-à-dire en corrigeant parfaitement ses idées, ses intentions, ses paroles, ses actes, ses moyens d'existence, ses efforts, son attention et sa concentration mentale. Le terme de cette voie est appelé extinction ou nirvana des passions, des erreurs, des autres facteurs de renaissance. Seuls les ascètes mendiants peuvent suivre jusqu'au bout la voie de la délivrance. Subsistant grâce à des aumônes, ils sont soumis à une discipline austère et doivent pratiquer des méditations ou dhyana très proches du yoga. Tout être et toute chose sont transitoires et changeants, composés d'éléments en perpétuelle transformation. Tout ayant un commencement et une fin, il n'existe ni âme immortelle, ni Dieu éternel.
Un peu de technique. En voiture. Le bouddhisme, en raison de divergences sur la pratique ou sur la doctrine, se divise en plusieurs écoles. Les yaras, ou véhicules, représentent divers moyens de progression sur la voie de la délivrance. Des 18 écoles qui existaient au temps d'Asoka, empereur indien de la dynastie Maurya, seules deux continuent d'exister, la Mahayana et le Theravada. Le Hinayana, ou petit véhicule. C'est le plus ancien groupe, le plus fidèle aussi aux enseignements de Bouddha. La vie monastique y est importante et la perspective de libération strictement individuelle. Une seule secte subsiste aujourd'hui, le Theravada ou enseignement des anciens. La littérature est rédigée en pali, la langue sœur du sanskrit, et concerne surtout les moines, auxquels elle enseigne la méthode à suivre pour devenir des arhats ou hommes méritants, autrement dit des saints ayant atteint le nirvana. Le Mahayana, ou grand véhicule. Apparu à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il produit de nombreux textes sanskrits, exhortant des fidèles à devenir des bodhisattvas, c'est-à-dire celui qui est dans l'état d'éveil. Pour ce faire, ils doivent porter à la perfection l'exercice des vertus, notamment en aidant et secourant les autres êtres, sans épargner leur peine ni leur vie, et en retardant leur propre entrée dans le nirvana, jusqu'à ce que tous les autres l'aient atteint. À la rigueur et à la discipline personnelle du petit véhicule, le grand véhicule oppose la compassion et l'intercession par les fidèles.
Le shintoïsme. Le mot Shinto signifie la voie des dieux. Les premiers écrits relatifs au shintoïsme, le Kojiki, le recueil des choses anciennes et le Nihongi, les chroniques du Japon, sont des compilations de mythes et légendes. Ils coïncident avec l'apparition du bouddhisme sur l'île car auparavant les Japonais ignoraient l'écriture. Une religion d'État. Religion officielle et religion d'État au Japon, le shintoïsme prescrit à la fois le culte des divinités, des ancêtres et de la nature. Le rituel se fait à l'intérieur de sanctuaires qui abritent des kamis, les esprits, des entités extraordinaires aux qualités fabuleuses englobant à la fois la force du vent, des ancêtres, des phénomènes naturels, des plantes ou des mammifères. Tout ce qui mérite d'être honoré, en gros. À la fin du XIXe siècle, les grands théoriciens de la restauration impériale se proposèrent de donner au Japon une religion nationale mettant fin à la relation anarchique entre le bouddhisme et la voie des kamis. Le Shinto devait ainsi favoriser l'idée d'une renaissance nationale. En 1868, Mutsuhito sépara officiellement le Shinto des autres cultes pour l'instituer religion nationale d'État. La doctrine shintoïste. Le Shinto ne s'appuie pas sur un code moral ou éthique, mais se veut conforme à la voie des dieux. Cette voie donne à l'homme la possibilité de choisir ce qui est juste, droit et loyal. Pour faire ses dévotions, le fidèle doit franchir la porte du sanctuaire, tori en japonais. Après s'être lavé la bouche et les mains, il pénètre dans la salle du culte qui se dit haiden. La demeure où se trouve le kami, la salle principale, lui reste close. Il fixe ses prières inscrites sur un papier à l'un des arbres sacrés, le sakaki. Mais le culte peut se pratiquer chez soi, près de son hôtel domestique. Le bouddhisme, diffusé au VIe siècle par des religieux portant avec eux des rouleaux de la doctrine bouddhique, est à la base de bien des caractéristiques culturelles japonaises, comme le théâtre no, le rituel du thé, la vénération de Bouddha. Le bouddhisme zen qui apparaît au XIIIe siècle prône quant à lui la découverte de la sagesse ultime par la méditation.
Le saviez-vous ? Restez zen. Fondateur de la secte Soto, Dogen, 1200-1253, moine bouddhiste, reçoit une éducation soignée en rapport avec le rang de sa famille, allié à la dynastie régnante. Il entre au monastère Kenin-ji, où est enseignée une forme de syncrétisme entre le zen Rinzai, équilibre entre travail physique, méditation, réflexion, le Tendai, courant tantrique, et le Shingon, bouddhisme du grand véhicule. Dogen préconise la méditation assise, le zazen, qui permet d'accéder à l'éveil. Il a considérablement apporté au zen japonais.
Les religions des forces naturelles. Les religions dites des forces naturelles prêtent aux roches, aux eaux, aux montagnes, aux tonnerres ou à la nature de manière générale des pouvoirs particuliers tirés de leur appartenance à une même force universelle. Des anciens Perses adorateurs du feu aux animistes de l'Afrique, en passant par les prêtres vaudous des Caraïbes adeptes de la magie noire, voici un petit panorama. Munissez-vous de vos amulettes. Le zoroastrisme. Fondateur du zoroastrisme, l'ancienne religion des Perses, Zoroastre ou Zarathoustra n'est pas le personnage légendaire que l'on croit. Né au VIe siècle avant Jésus-Christ, il est banni de sa ville natale, Bactre, l'actuelle Balkh, en raison de sa condamnation des sacrifices de taureaux faits en l'honneur du dieu Mitra. Il développe sa doctrine vers l'âge de 30 ans quand il a la révélation de l'existence du dieu suprême, Ahura Mazda, dans la région du Khorasan, une province d'Iran. Ce n'est qu'après sa mort que ses prédications sont rassemblées et mises en vers dans les gathas, qui sont des chants religieux. Le zoroastrisme n'est pas un monothéisme, mais un énothéisme, c'est-à-dire une religion où un dieu joue un rôle prédominant par rapport aux autres, ce qui lui vaut un culte préférentiel. Il dure de l'époque des Achéménides, entre 688 et 330 avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête de l'Iran par l'islam en 651. Religion d'État, il impose son dieu Ahura Mazda, que les artistes représentent par une figure humaine vue de profil et planant dans les airs au milieu d'un cercle ailé. Sur les bas-reliefs de Persépolis, vers 500, ce symbole se retrouve toujours placé au-dessus du roi. Cette religion est fondée sur le dualisme entre le bien et le mal, l'existence d'un tout partagé en deux mondes ennemis. Celui du bien est sous la tutelle d'Ahura Mazda, celui du mal sous le pouvoir de son opposé, Ahriman. L'essentiel du culte porte sur l'hommage rendu au feu sacré, d'où l'édification d'un grand nombre de sanctuaires appelés maisons du feu.
Un peu de technique. Ainsi parlait vraiment Zarathoustra. L'Avesta est un recueil de livres saints des anciens Perses, qui contient l'essentiel de la religion zoroastrienne. Il se compose de plusieurs parties distinctes, dont les trois premières sont utilisées pour la liturgie des Parsis. Le Vidévat, recueil de lois religieuses. Le Yashna, ensemble de prières versifiées et de louanges à la divinité et aux êtres inférieurs. Le Visperad, dont les invocations sont consacrées aux anges. On recense ainsi 24 Yasht, qui sont des louanges en l'honneur de personnes et d'objets sacrés. Les Gathas, chants attribués à Zarathoustra, sont les mieux conservés. Les livres en langue Pélévi, perse ancien, comportent le Bundehesh, la création originelle, et le Denkart, le livre de la religion, qui traite à la fois de cosmogonie et d'histoire de l'univers. L'ensemble de ces textes a été rédigé et rassemblé sous la dynastie des Sassanides.
Le manichéisme. Manès, ou Mani, qui vécut au IIe siècle de notre ère, reçut une éducation judéo-chrétienne à une époque où la religion officielle était le mazdéisme. Il se dit envoyé de Dieu, au même titre que Bouddha et Jésus. Vers l'âge de 12 ans, un ange vient lui confier le soin de propager une nouvelle religion. Ce sera le manichéisme qui puise dans le zoroastrisme l'idée de l'opposition entre bien et mal, dans le christianisme la notion de péché et dans le bouddhisme les principes de renoncement et de libération. Cette religion s'ouvre à tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur condition. Tout le système de Manès gravite autour de l'opposition entre l'âme lumière et le corps ténèbres. L'homme est né de ce conflit et pour qu'il puisse, après la mort, rejoindre le royaume de la lumière, il doit abandonner tout ce qui est matériel. L'animisme. Le nom d'animisme, du latin anima, qui signifie âme, est donné aux religions traditionnelles pratiquées en Afrique, en Amérique du Sud, chez les aborigènes d'Asie et en Océanie. Il existe également un fond animiste dans les pays scandinaves. Ces croyances se caractérisent par le culte des ancêtres et celui des forces de la nature. Il n'y existe pas de frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Un médecin allemand, Jörg Ernst Stahl, a forgé ce mot pour réfuter la séparation platonicienne puis cartésienne entre le corps et l'âme. L'animisme sous-entend une croyance à la fois aux esprits et aux âmes qui serait la cause de tous les phénomènes vitaux physiologiques et psychologiques. L'animiste croit que toute chose vivante possède une âme. Le concept d'animisme se modifie considérablement après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion des anthropologues et les problématiques posées se tournent davantage vers la magie ou le sacré. Le vaudou. Au XVIe siècle, avec les migrations d'esclaves africains vers les colonies des Caraïbes, le vaudou, ou vaudou, est transporté en même temps vers ces contrées. La forte imprégnation catholique s'y est mélangée. D'autres religions sont nées, mais le vaudou domine, notamment en Haïti. Aux Antilles, les voyants sont appelés « gars des affaires », ce qui en créole signifie « regarder les affaires ». Au-dessus des sorciers ordinaires, dans le système hiérarchique, se trouvent les quimboiseurs qui sont là pour protéger des maléfices. Leur exercice est parfaitement admis. Ils pratiquent la magie blanche, procèdent à des envoûtements et soignent aussi les maladies. Un patron, c'est-à-dire un diable ou un démon, protège leur activité. Les prêtres vaudous sont appelés Ungan, les maîtres de Dieu, ou Mambo lorsqu'il s'agit d'une femme. Le Boko est un magicien du bien et du mal. Ces trois administrateurs de la religion symbolisent l'ordre et le désordre existant dans toute société. Au-dessus d'eux existe Dieu ou le grand maître, le créateur de génie. Les vibrations de son, les symboles ou contacts sensoriels prédominent dans les incantations qui peuvent se faire en créole, espagnol, africain ou français.